Je vais partager avec vous quelques pensées que l'esprit m'a mis à cœur de vous partager. Je ne sais pas si je dois me présenter d'abord. Oui. Pour commencer, déjà, je suis enfant de Dieu. Je pense que commençons par là. Mari d'une femme merveilleuse et père de deux sources de bénédiction. Et membre de l'église de Mâcon. Alors si je dis juste de l'église de Mâcon, donc l'église rue des Tournesols que nous appelons les PEMA. Et où j'ai la grâce de pouvoir, le dimanche, participer au culte et servir et enseigner aussi par moments. Et ce matin, donc, j'ai la joie d'être devant vous, l'honneur de partager avec vous ces instants. Et je vais vous parler d'un personnage en particulier qui va nous servir de bon exemple, ou plutôt de bon mauvais exemple par moment. Il s'agit du roi Saül. Si on vous disait « Trouver un bon exemple de chrétien dans la Bible », vous choisissez qui ? Eh bien, Dieu a parfois cet humour-là de mettre à cœur certains passages auxquels on n'aurait pas pensé. Et je vais vous parler du chrétien en parlant du roi Saül. Alors, ça va de 1 Samuel 9 jusqu'à 1 Samuel 31. Donc, pour des raisons évidentes de timing, je pense qu'on ne lira pas tout ce matin. Je vais moi-même citer quelques versets ou résumer parfois quelques situations et je vous invite évidemment chez vous à reprendre la lecture en entier. C'est intéressant parce que c'est des passages que j'ai déjà lus des tas de fois, que j'ai lu enfant, que j'ai lu jeune, que j'ai lu adulte. Et c'est des passages que j'ai relus avec ma fille quand on lit la parole le soir ensemble. Et c'est marrant, mais en fait, vous pouvez avoir lu la Bible des cinquantaines de fois. Vous pouvez avoir étudié, lu des commentateurs, etc. et vous trouver complètement dépourvu face à des réflexions ou des questions d'un enfant. Et lire la Bible avec un enfant, c'est riche. C'est pas pour rien que le royaume des cieux est à eux, n'est-ce pas ? Et du coup, en lisant avec ma fille, avec toutes ces réflexions, je me suis dit, ce serait bien peut-être de les partager, ces réflexions-là. Et on va commencer par le début, qui est Saül ? Et on pourrait dire, c'est personne, personne de particulier. C'est un habitant du peuple qui n'a pas une naissance spéciale. Contrairement à Moïse, il n'a pas été sauvé des eaux miraculeusement, il n'est pas né d'une vierge. Il est comme vous et moi, quelqu'un d'anodin, quelqu'un qu'on aurait pu croiser peut-être sans le remarquer. Mais ce qui va faire de Saül un personnage important, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Est-ce que vous avez été choisi par Dieu ? Et dans un premier temps, il a reçu l'onction. Alors l'onction, on peut se dire, c'est un peu d'huile sur la tête, n'est-ce pas ? C'est pas spécialement quelque chose d'important. Vous pouvez tous rentrer chez vous, sortir une bouteille d'huile, même si en ce moment c'est un peu onéreux. Vous pouvez vous en répandre une quantité selon votre souhait sur votre tête et dire « ça y est, je suis oint ». Pas très dur, n'est-ce pas ? Mais il a reçu une onction particulière au point que le roi David, qui pourtant ne répugnait pas à tuer, n'est-ce pas, puisqu'il a abattu Goliath et des tas d'autres adversaires, le roi David à plusieurs reprises, alors même que Saül cherchait à le tuer, était son ennemi déclaré, il a dit « je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Jusqu'au bout, peu importe ce que faisait Saül, David a respecté cette onction. Au point même que celui qui est venu lui dire « moi j'ai tué Saül », David l'a châtié et l'a mis à mort. Dans 1 Samuel 10, au verset 1, Samuel prit une fiole d'huile qu'il versa sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit « l'Éternel t'a désigné par onction pour que tu sois le chef de son héritage ». Mais ce n'est pas la seule chose qu'il ait reçue. Toujours dans 1 Samuel 10, versets 6 et 7. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu deviendras un autre homme. Lorsque ces signes se seront réalisés pour toi, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Il a reçu l'onction. Il a reçu l'Esprit. Il a reçu ces choses-là. Il a reçu d'autres choses dont on pourrait parler. Parce que quand il est choisi au sein du peuple, on courut le tirer de là, il se présenta au milieu du peuple il les dépassait tous d'une tête. Ça peut vous paraître rien, mais Saül était grand. Et au-delà de ça, au-delà des choses spirituelles qu'il a reçues, Saül a reçu la royauté. Et même au-delà de ça, il a démarré sa royauté par une victoire éclatante. Dans 1 Samuel 11, on peut le voir. Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort aujourd'hui, car aujourd'hui l'Éternel a accompli une délivrance en Israël. » Samuel dit au peuple « Venez, allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils y sacrèrent Saül roi devant l'Éternel. Ils y offrirent des sacrifices de communion devant l'Éternel, et Saül et tous les hommes d'Israël s'y livrèrent à de grandes réjouissances. Qu'avez-vous que vous n'ayez reçu? Regardez-vous, regardez vos vêtements, vos habits, vos bijoux, je ne sais. Regardez autour de vous, votre famille, vos amis, votre église. Qu'avons-nous, chers frères et sœurs, que nous n'ayons reçu de Dieu? Saül est le parfait exemple de celui qui n'avait rien. C'était juste un fils dévoué qui cherchait les ânesses de son père. Il s'est retrouvé sur la route d'un prophète qui n'était pas là par hasard. Il a été choisi, loin, rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été fait roi et Dieu lui a donné la victoire. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas un peu vos vies? Alors je ne sais pas quel est l'état de votre compte en banque et peut-être que vous ne dirigez pas un peuple très nombreux. Peut-être que vous n'avez pas cette royauté terrestre, pourrait-on dire. Mais nous avons reçu, n'est-ce pas, la victoire, l'Esprit, l'onction. Sans mérite, Saül n'a rien accompli. Certains diront, oui, mais David, quand même, il a été abattu Goliath. Non, avant d'avoir abattu Goliath, il avait déjà été choisi et loin aussi. Sans aucun mérite, par grâce, gratuitement. Nous avons un Dieu qui donne. Alors on a parfois l'impression, quand on regarde les autres, qu'il donne plus à certains qu'à d'autres. Et on pourrait se dire, Saül a reçu plus, n'est-ce pas? Mais comme dans certaines paraboles du Nouveau Testament aussi, à ceux à qui on donne plus, on attend plus. Et nous de même, si je reprends aussi un peu le Nouveau Testament, parce que c'est bien de lire l'Ancien, mais le lire à la lueur du Nouveau, c'est toujours riche. Nous-mêmes, nous avons reçu tout en Christ. Comme dans ce verset de Colossiens 2, verset 10, que je vais prendre en même temps. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir tout pleinement? On a toujours l'impression d'avoir, mais c'est un peu le mal de notre société, on a toujours l'impression de manquer, n'est-ce pas? Il nous manque toujours une chose. Et même les plus riches cherchent toujours à s'enrichir davantage, ils ne le sont jamais assez. Même les plus puissants cherchent encore à en avoir davantage, sans jamais s'arrêter. Vous avez des sportifs qui sont 7 fois, 8 fois champions du monde et ils continuent, ils essayent toujours de battre leur propre record. Mais nous, nous avons tout pleinement en Christ. On pourrait s'arrêter là et se dire « Super, une belle vie, n'est-ce pas ?» Mais avec cette première victoire, avec ce zèle que Saül a eu pour servir Dieu, eh bien le temps passe et que se passe-t-il ? De bouillant, il devient tiède. La Bible en parle, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse, dans les lettres aux églises. On pourrait citer aussi ce verset qui dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Alors, je ne sais pas si vous avez eu la grâce d'être amoureux. Comparez le tout début à maintenant. Les choses changent, n'est-ce pas? Le zèle qu'on peut avoir au début peut parfois varier, peut parfois s'altérer avec le temps. Je peux dire que si, quand j'étais fiancé à ma femme, elle me demandait une chose, même à l'autre bout de la terre, j'aurais été sans problème. C'est des mots, hein, mais vous pouvez les croire. Alors qu'aujourd'hui, si elle me demande une chose, je vais toujours le faire, mais je vais râler. Ça change, hein, le mariage. Mais c'est vrai que c'est pareil aussi un peu dans la foi chrétienne. Au début, on est tout là, tout zélé, plein de feu. Et puis, il y a des moments où on se sent un peu plus tiède, un peu moins chaud, voire un peu plus froid. Et Saül, alors que Dieu était avec lui, par peur d'être abandonné, par peur de la défaite, par peur de ce que le peuple allait penser de lui, a commencé à pécher. Alors on pourrait dire il était pécheur, hein. On l'est tous. Mais il y a une différence évidemment à commettre un péché en tant qu'homme et commettre un péché en tant que roi de tout un peuple qu'on dirige au nom de Dieu. Si je dis des choses fausses chez moi, c'est déjà un peu grave. Si je dis des choses fausses là maintenant devant vous, c'est pas la même chose. Alors Saül, dans 1 Samuel 13, a offert un sacrifice en lieu et place de Samuel qui était en retard. Je vais vous lire 1 Samuel 13, 8 à 14. Saül attendit 7 jours, conformément au délai fixé par Samuel, mais celui-ci n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Saül dit alors « Amenez-moi les victimes destinées à l'Holocauste et au sacrifice de communion », et il offrit l'Holocauste. Il finissait d'offrir l'Holocauste lorsque Samuel arriva. Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé, que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit « Les Philistins vont descendre m'attaquer à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Alors on pourrait se dire, bon, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, n'est-ce pas? Mais pourquoi? Pourquoi Saül a-t-il désobéi? Il voit le peuple se disperser. Qu'aurait dit Gédéon dans la même situation en voyant que Dieu réduisait drastiquement toute son armée? Il n'a pas montré de peur ou de crainte. Le roi Asa n'a-t-il pas dit aussi, pour l'Éternel, un peu c'est comme beaucoup? Et il est sorti en face d'un million d'Éthiopiens qui venaient l'attaquer. Saül aurait pu se dire, si Dieu est avec moi, peu importe que j'ai 10 ou 10 000 soldats. Mais non, la peur l'a emporté et l'a mené à la désobéissance. Et quelle est la réaction de Saül? Vous avez vu le mot pardon? Quelle est votre réaction quand vous péchez? Quelle est notre réaction quand nous péchons? La première chose qui vient, et trop souvent chez moi, hélas, c'est la justification. Oui, mais voilà les circonstances. Voilà ce qui m'a amené à faire ce choix. Ça va loin. Au lieu de dire « pardon, j'ai péché », c'est « je me suis fait violence pour pécher ». Je me suis fait violence pour désobéir parce que tu étais en retard. Dès le début de la Bible, hein, n'est-ce pas, on se souvient d'un certain Adam qui a dit à Dieu « La femme que tu m'as donnée m'a amené à ». Adam ne s'est pas mis à genoux en disant « Pardon, j'ai péché, c'est ma responsabilité ». Il dit « Mais c'est cette femme que tu m'as mise là ». Et la femme a dit « Mais c'est le serpent que tu nous as mis là ». Et on repousse comme ça. Reconnaissons nos fautes. On pourrait dire « Mais de toute façon, Dieu avait déjà décidé ». Dieu a déjà décidé de donner le royaume à un autre. Que peut faire Saül? Et je pourrais vous citer dans Jonas que Dieu avait déjà décidé de détruire Ninive, n'est-ce pas? Mais le changement de conduite des Ninivites, leur repentir sincère, a changé le plan de Dieu pour eux. Je pourrais citer d'autres manquements de Saül. Saül qui fait jurer à tout un peuple de ne pas manger avant d'avoir eu la victoire sur ses ennemis, dans 1 Samuel 14. Ce qui moi m'a interpellé, c'est le verset 24 d'1 Samuel 14. « La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Et plus loin, merci. Plus loin, le peuple va pêcher, du coup, parce que déjà son fils va prendre de la nourriture sans être au courant, et plus loin même, le peuple affamé va se jeter sur des animaux et va le manger avec le sang, ce qui leur était interdit en Israël à l'époque. Mais ce qui est marrant, c'est les paroles de Saül. Avant que je me sois vengé de mes ennemis. On n'a pas un vœu où il dit avant que la parole de Dieu ne soit accomplie, avant que nous ayons obéi entièrement à l'Éternel, nous n'allons pas prendre de repos ou de nourriture. Mais non, je suis roi, c'est mes ennemis, je veux une victoire éclatante, personne ne mangera tant que je n'ai pas la victoire. Et la conséquence derrière, c'est la faute. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à votre vie? Cherchez des excuses. Vous faire passer en premier. Cherchez votre victoire. Je suis pas en train de vous accuser, hein. Je me place moi-même dans la même situation. Mais très souvent, en pensant à nous en premier, on commet la plus belle des erreurs. Parce que peut-être qu'en cherchant simplement à accomplir la volonté de Dieu, la victoire aurait été encore plus éclatante. Dans 1 Samuel 15, le combat contre Amalek, Saül désobéit à nouveau à Dieu en gardant du butin, en gardant le roi en vie alors que Dieu avait bien dit de tout dévouer par interdit. Et sa réponse, c'est un peu « Oui, j'ai écouté, mais j'ai gardé 2-3 trucs de côté. Mais c'est pour sacrifier à Dieu, n'est-ce pas ?» Et Samuel de lui répondre que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. « J'ai obéi, j'ai fait ta volonté, Seigneur, mais je garde ma part. » Ça fait pas penser un peu à Ananias et Saphira ? J'ai obéi, j'ai vendu, mais je garde ma part et je mens derrière pour couvrir ma faute. Et enfin, Saül dit « J'ai péché ». On peut se dire « Ah, il a compris, il va changer ». Dans 1 Samuel 15, au verset 17, enfin à partir du verset 17, moi je vais lire plus loin à partir du verset 24 donc. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Encore une fois, la peur, très belle motivation. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. Plus loin, toujours dans le même passage, j'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Quelle sorte de pardon ça? C'est comme si après une dispute je disais à ma femme, ok, tu reconnais que t'as tort et je demande pardon. Ça marche? Ça lui dit, j'ai péché, mais toi honore-moi. Viens avec moi, montre devant tout le monde que tout va bien entre nous, et moi après je vais adorer Dieu. Vous pouvez négocier avec Dieu, hein. Vous pouvez essayer de négocier avec Dieu. Vous pouvez dire, Dieu fait ça d'abord, et moi après je t'adore. Mais le plan de Dieu n'est pas le même que le nôtre. Alors évidemment, il ne s'agit pas de jeter Saül en enfer et de tout cet là à l'accabler et l'accuser de tous les maux. Mais il s'agit de regarder chacun à nous-mêmes. Où est le plan de Dieu dans ma vie et où est mon plan personnel? À quel moment je fais passer l'un avant l'autre? À quel moment j'accomplis la volonté de Dieu? Est-ce que je ne l'accomplis que si ça concorde un petit peu avec mes propres envies ou mon propre plan? À quel moment je commence à négocier avec Dieu dans mes prières? On peut juger Saül. Est-ce que tous nous ne faisons pas de même bien souvent? Est-ce qu'il y a des mais dans votre vie? J'ai accompli ta volonté, Seigneur, mais j'en garde une partie. Mais ça, je n'y touche pas. Je viens te demander pardon, mais dans ces cas-là, je veux ça en échange. Dans quel domaine vous avez ce fameux « mais » qui gâche tout? Si vous demandez à quelqu'un que vous appréciez et qui vous dit « je t'aime, mais » c'est fini. Les premiers mots, on les oublie. On est juste en train d'attendre la suite, en stressant et avec angoisse, en se disant « mais qu'est-ce qu'elle va me dire ?» N'est-ce pas? Il est horrible ce « mais » passé à cet endroit-là. Vous espérez un poste, vous faites un entretien, on a pensé à vous, mais... Ah. On va me sortir de belles excuses, et ça sera pas moi. Avez-vous vu Dieu vous dire « mais » dans un domaine de votre vie? Avez-vous vu Jésus venir sur terre et dire « ok, tous, je vais me sacrifier pour vous, mais... » Il s'est sacrifié, point. Sur la croix, il a dit « pardonne-leur ». Il s'est pas dit « mais ceux qui se repentent pas, occupe-toi-en ». Non, pardonne-leur. Alors, on va continuer. Et au lieu d'avoir grâce sur grâce, comme nous dit la parole, on va avoir péché sur péché. On a ce raisonnement humain complètement stupide, n'est-ce pas? Quand on a une petite tâche quelque part, on va la couvrir par une tâche encore plus grosse et encore plus couvrante. Comme David qui va commettre l'adultère et qui derrière se dit « bon ben, on va rajouter le meurtre, on va comme ça cacher l'adultère avec un meurtre, c'est mieux ». Salut de la même façon, avec ses premiers péchés, au lieu comme des Ninivites ou comme d'autres, de chercher la volonté de Dieu, de chercher la repentance, de s'humilier devant Dieu, il va accumuler péché sur péché. Il va jalouser David, qu'il saura être choisi à sa place. Il va être prêt à le poursuivre, à le tuer. Et dans cela même, il va faire quelque chose sur lequel je vais m'arrêter spécifiquement. Saül va s'isoler. Quand son fils vient lui parler de David, dans 1 Samuel 20, Saül se retrouve prêt à tuer son propre fils. Dans 1 Samuel 20, au verset 30 à 33, alors que Jonathan intercédait pour David, alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit « Fils d'une femme perverse et rebelle ». Belle révélation pour son enfant. Je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène car il mérite la mort. Jonathan répondit à son père Saül, pourquoi le faire mourir? Qu'a-t-il fait? Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. On s'enfonce de plus en plus. De bouillant, on devient tiède. De tiède, on devient froid. De froid, on devient glacé. Il n'y a qu'une chose qui peut nous réchauffer, n'est-ce pas? Qui est la chaleur de notre monde? Qui est le feu? Et Saül s'enfonce. Prêt à s'opposer à son fils? Prêt même plus loin à s'opposer à tous ses serviteurs? Quand David s'enfuit, certains sacrificateurs vont accueillir David et vont l'aider. Et Saül va arriver et va prendre cela comme une conspiration. Dans 1 Samuel 22, à partir du verset 13, Saül lui dit « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, le fils d'Isaïe et toi ?» Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée, et pourquoi as-tu consulté Dieu pour lui? Ainsi il s'attaque à moi et me dresse des embuscades comme il l'a fait aujourd'hui. Et plus loin, le roi rétorqua, tu mourras, Achimélec, ainsi que toute ta famille. Puis il ordonna aux gardes qui se tenaient près de lui, tournez-vous et mettez à mort les prêtres de l'Éternel, car ils sont de mèche avec David. Ils savaient bien qu'il était en fuite et ne m'ont pas averti. Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les prêtres de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg, « Tourne-toi et frappe les prêtres. » Doeg l'Édomite se tourna et ce fut lui qui frappa les prêtres. Il fit mourir ce jour-là 85 hommes qui portaient l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob la ville de ses prêtres, hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs, ânes et brebis. tous tombèrent sous le tranchant de l'épée. Comment, lors de la bataille contre Amalek, il peut garder du bétail en vie? Il peut garder le roi en vie, alors que Dieu lui avait spécifiquement dit de tout détruire, de tout dévouer par interdit. Et là, dans sa colère, il massacre des prêtres de l'Éternel, il massacre la ville et ne laisse à rien. Comment pouvez-vous être, pouvons-nous être, plus zélés à faire notre volonté qu'à faire la volonté du Seigneur? Comment dans notre vie, quand Dieu nous demande de lui laisser toute la place, on en garde pour nous? Et quand il s'agit de notre tour, on est prêt à tout prendre? Là, il n'a aucune raison de les tuer. À la limite, s'il estime que les sacrificateurs ont mené une conspiration, il les fait juger, peut-être aurait-il été mis à mort après un jugement. Et quelle raison en prête de détruire toute la ville, toute leur famille? Saül s'enfonce. Et il s'enfonce toujours plus davantage. C'est cette tendance qu'on a tous quand on commence à laisser un peu la place au diable. Quand on pêche, on a tendance à rajouter péché sur péché. Et si je commence à mentir pour couvrir mon péché, après je me trouve à mentir pour couvrir mes mensonges, puis parfois à devoir faire des choses que je ne voulais pas faire pour rendre mes mensonges plus crédibles. Et puis, ça ne s'arrête plus. Je m'enfonce toujours plus. Je m'éloigne toujours plus de Dieu. Je me refroidis toujours davantage. Au point que, à la fin, quand dans 1 Samuel 28, il veut consulter Dieu, Dieu ne répond plus. Et que fait Saül? Dans 1 Samuel 28, il va chercher une voyante qui évoque les morts pour consulter ainsi l'esprit de Samuel qui était mort alors. Ne va pas chercher le diable si tu cherches Dieu, n'est-ce pas? Si tu dois chercher Dieu et qu'il ne répond pas, bah remets-toi en question. Pourquoi ne te répond-il pas? Si je parle à ma femme et qu'elle ne me répond pas, je vais faire quoi? Qui vais-je aller voir? Je vais me dire, bon, elle ne me répond pas. J'ai dû faire un truc. Et je vais essayer de passer en revue la journée. Peut-être que j'ai oublié quelque chose, un anniversaire, une date importante. Peut-être que j'avais dit que je ferais quelque chose que je n'ai pas fait. Je vais chercher un peu. Si Dieu ne répond pas ou ne semble pas vous répondre, que faites-vous? Vous allez aller voir des voyants? Vous allez voir des gens qui ont encore moins de réponses à vous donner? Jusqu'au bout, il va s'enfoncer davantage. Mais ça nous apprend quoi? En s'enfonçant, Saül s'isole. Il s'isole face à son fils, comme on l'a dit, il s'isole face à ses serviteurs, parce qu'aucun n'a voulu lever la main sur les prêtres de l'Éternel, et ça aurait dû l'arrêter. Si nous, chrétiens, nous sommes unis, est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs garde-fous? Si vous marchez seul sur un chemin que vous ne connaissez que moyennement et que vous vous égarez, ben là où seul vous étiez égaré, peut-être qu'à plusieurs, vous auriez pu raisonner, ou peut-être que l'un aurait pu vous dire « moi je connais cette partie », puis l'autre « moi je connais la partie d'après ». Et là on dit « Amen, merci Seigneur ». C'est marrant parce que notre frère Jean-Charles a commencé par Jean 17. C'est dans mes textes. Hein. Comme quoi, même loin géographiquement, ou dans des églises différentes, dans des quartiers différents, on a le même esprit, n'est-ce pas? Et dans Jean 17, qu'est-ce qu'on lit? Je ne vais pas tout relire. Je vais lire juste de 20 à 23. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi. Est-ce que nous sommes un? Est-ce que vous vous sentez pas parfois isolé dans vos décisions? Alors parfois, ça peut être bien d'être isolé si vous êtes au milieu d'un groupe qui n'a pas forcément les bons intérêts, mais si au sein de votre famille, au sein de votre église, vous vous sentez isolé, peut-être qu'il y a une raison. Dans Jean 15, on a cette image du cep et des sarments. Je ne vais pas vous relire, mais relisez Jean 15, c'est très riche. Quel grain de raisin dit à la grappe, « Bon, vous êtes sympa, moi je vais faire ma vie dans mon coin, je vais me détacher de vous, et ça va aller. » Prenez une grappe de raisin sur une vigne, détachez un grain et posez-le à côté. Revenez les consulter régulièrement, et les grains sur la vigne, et le grain à côté. L'un d'eux va se retrouver comment ? Romains 12 nous dit que nous sommes tous les membres d'un même corps. Alors autant pour le grain de raisin, vous pouvez le faire, autant là, ne le faites pas. Si on se coupait un membre et qu'on le posait à côté, en disant, bon, bah, t'es un pied, tu peux vivre tout seul, vis ta vie de pied, tu t'en sortiras mieux comme ça, tu seras libre de faire ce que tu veux, d'aller où tu veux aller, ce pied ne va pas bien aller. Saül a fait exactement ça. Et nous, chrétiens, nous faisons souvent ça aussi. Quand nous nous enfonçons dans le péché, cela nous amène aussi à nous isoler des autres. Et si je me détache de la grappe, ce n'est pas juste les autres raisins, parce que les autres raisins, ils sont sympas à côté de moi. Ils sont jolis, ils sont juteux, c'est agréable. Mais ce n'est pas eux qui me font vivre. Qui est le cep ? Qui nourrit les raisins ? Si je me détache de lui, que va-t-il se passer ? Alors pour éviter de passer de bouillant à tiède, puis de tiède à froid, et ainsi de suite, pour éviter de nous retrouver dans ces situations où on va s'éloigner toujours plus, s'enfoncer toujours plus, et augmenter davantage nos péchés, ne nous isolons pas. Cherchons déjà premièrement la face de Dieu. Et si Dieu a fait des membres différents, c'est parce que nous avons tous une utilité différente. Si ce matin, tous, vous dites « je suis une main », ben imaginez un corps fait de main. Que va-t-il pouvoir accomplir ? Ou si tous, vous dites « moi, je suis l'œil, je suis vigilant », imaginez un corps plein d'œil, mais seulement des yeux. On y verra bien, mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra pas avertir, il ne pourra pas agir. Si nous faisons passer Dieu avant tout, contrairement à Saül qui a jalousé David, nous ne devons pas jalouser notre prochain. Je pourrais regarder les personnes tout à l'heure qui ont magnifiquement loué et dire « Dieu, ma voix n'est pas comme la leur. » Je ne vais pas chanter pour vous le prouver, mais je pourrais dire « Seigneur, je te sers moi aussi, j'ai à l'église aussi, bah, donne-moi une belle voix que je puisse te louer mieux. » Non. Si vous m'aviez mis à la guitare, on n'aurait pas eu le même rythme. Ça aurait été différent. Et je pourrais dire, Seigneur, j'ai pas ce don. Il me le faut. Saül a jalousé David dès le début, parce qu'on a chanté, il a tué ses 1000 et David ses 10 000. Mais pourquoi ne pas dire, merci Seigneur, j'en ai tué 1000? Non, moi je veux les 10 000 que lui a. Imaginez maintenant ces mêmes passages où Saül accueille David, comme son gendre, ce qu'il a été, dans sa famille. Le soutien, l'aide, le forme à être le prochain roi. Où Jonathan se retrouve à être aux côtés de David et l'aider à régner. C'est pas plus beau comme monde ? Peut-être même que David n'aurait pas chuté derrière. Peut-être que Jonathan l'en aurait empêché. Alors on peut tout réécrire comme ça avec des peut-être. Mais le plan de Dieu à la base, c'était pas que le lion mange les agneaux, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden ? Mais c'était qu'ils vivent tous ensemble en paix. Et nous, par nos décisions, par nos choix, par notre orgueil, on gâche ça. On jalouse. Alors, si vous allez à l'église avec cet esprit-là de jalousie, de regarder les autres et de vous dire « Je suis autant chrétien que lui, hein. Je connais plus la Bible, je prie plus longtemps. Pourquoi est-il plus béni que moi ? Pourquoi a-t-il des dons que je n'ai pas ? Est-ce que votre main s'adresse à votre œil en disant « Moi, je sais faire ça, pas toi ?» De la même façon, Dieu nous a rassemblés, membres d'un seul corps. Et au lieu de dire « Merci Seigneur pour la tâche que tu m'as confiée. Merci pour le corps que je suis. Nous, on est là à dire « Je veux être autre, je veux plus, je veux ce qu'a mon prochain. » Si on relit beaucoup de passages dans l'Ancien Testament à la lueur du Nouveau, si on essaie de réécrire l'histoire avec ce qu'on connaît, nous, de la suite, on se rend compte à quel point Saül y ressemble beaucoup à nous-mêmes ou à beaucoup de chrétiens contemporains qui sont zélés, pleins de feu, qui petit à petit abandonnent leur premier amour, qui se retrouvent tièdes. Si dans les lettres aux églises, en Apocalypse 2 et 3, sur les sept églises, on a quand même une majorité pour qui ça va pas bien, ce n'est pas pour rien. S'il y a des reproches, ce n'est pas pour rien. Si Dieu leur reproche d'avoir abandonné leur premier amour, si Dieu leur reproche d'être tiède et non bouillant, ce n'est pas pour rien. Si nous lisons la parole, si nous faisons nôtre les versets qui y sont, alors nous savons que nous avons la victoire. Ne cherchons pas la victoire personnelle. Je pourrais arriver ce matin et me dire, je vais dire ci ou ça, ça fera mieux. Je mets des figures de style dans ma prédication. Ça va faire intelligent. J'ai fait des études et tout. Hein. Je pourrais m'amuser à changer ce que l'esprit a annoncé en me disant, non mais ça, c'est plus vendeur aujourd'hui, c'est plus percutant. Ça a eu, c'est un peu dépassé. Hein. Ça fait longtemps quand même. Évidemment, si on commence à vouloir mettre beaucoup de « nous » dans ce que Dieu veut faire en nous, bah souvent on met moins de Dieu, et souvent ça se passe moins bien. Pour conclure un petit peu, je vais vous lire quelques versets que ma femme a partagés d'ailleurs. Dans 1 Jean 2, à partir du verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. » Dieu ne nous écrit pas en disant « Fais ceci ou cela. » Dieu ne négocie pas avec nous, comme ça il a essayé de le faire ou comme nous essayons de le faire continuellement. Dieu nous dit simplement « Je vous ai pardonné. Je vous ai donné la victoire sur le malin. Saisissez cette victoire. » Amen.
Amen. Amen.